Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. On est ensemble jusqu'à midi. Au programme, des pianistes qui vont nous faire découvrir des univers aussi originaux que variés. Jodeline Galavardin nous fera partager avec son album Nuit Blanche son voyage intérieur du crépuscule à l'aube. François Mardi-Rossian, dans un disque au titre énigmatique, Sources inconnues, s'interroge sur les origines de la musique. François Daudet, avec Davin Louverse, revisite des œuvres emblématiques pour violoncelle et piano. Tandis que Rodolphe Minguy, que nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro de IDFM Radio, va nous plonger dans le rêve, A Fairy Tale. Il était une fois. Vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, des contes qui ont enchanté nos jeunes années. Eh bien, Rodolphe Minguy va raviver nos souvenirs et les faire remonter à la surface.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Rodolphe Minguy.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ravi de vous accueillir dans notre balade musicale. Vous avez 28 ans. Après l'excellent CRR de Boulogne-Billancourt, vous poursuivez vos études au CNSMD de Paris dans la classe de Denis Pascal et de Verduy-Yeritsian. Et vous vous perfectionnez à l'Académie nationale de Sainte-Cécile à Rome. Vous êtes lauréat de concours internationaux et notamment les médias francophones publics représentant France Musique. Puis vous faites partie de la promotion Vivaldi de l'Académie Philippe Jaroussky à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Et depuis 2024, vous êtes résident à la prestigieuse fondation Saint-Gerre-Polignac à Paris. Vous vous produisez aussi bien en soliste qu'en chambriste, dans des festivals et salles prestigieuses, le festival de La Roque d'Anteron, la Folle Journée de Nantes, festival Chopin à Paris, l'ambassade de France à Washington, etc. Après un premier disque, Rhapsodie hongroise, sorti en 2023 sous le label Mirare, salué par la presse spécialisée, vous venez de faire paraître l'album A Fairy Tale, à travers le miroir. Pourquoi ce titre, Rodolphe Minguy ?
Alors, comme le dit le titre, A Fairy Tale, les contes de fées, j'avais envie d'explorer une certaine thématique. Et mon premier disque qui était sorti il y a 2 ans était consacré à la musique hongroise avec Bartók, Liszt et Kodály. Il y avait une mouture, je dirais, plus classique. Et pour ce nouveau programme de disque, j'avais envie d'explorer quelque chose de plus narratif, de plus conduit, enfin même si un programme classique peut être très conduit aussi, mais où vraiment il y aurait un intérêt à écouter l'heure du disque en entier, sans interruption, qui aurait vraiment un parcours dans ce programme-là, donc qui dit narration, dit histoire, et donc je me suis replongé dans les histoires qui m'avaient inspiré, façonné quand j'étais enfant, adolescent, et en fait à la base il y a les contes de fées qu'on lit, qu'on visionne, qu'on entend quand on est petit. Et ensuite, peut-être les contes de fées modernes aussi qu'il peut y avoir à travers toute une certaine pop culture qui m'a beaucoup influencé, comme beaucoup d'enfants de la fin des années 90. Donc, voilà, j'avais envie d'explorer ce thème des contes de fées. Et il s'avère qu'en plus, quand on est musicien, on a la chance d'avoir énormément de compositeurs et compositrices qui ont aussi été inspirés par ce thème. Parce que c'est une certaine mythologie, des légendes qui naviguent dans l'imaginaire de chacun, et donc il y a une production musicale pour ça qui est absolument gigantesque. Donc voilà, c'était un peu la base de ça. Et alors, il s'appelle A Fairy Tale à travers le miroir parce que pour moi, en fait, les histoires, notamment quand j'étais adolescent, représentaient une sorte d'échappatoire, une invitation à l'imaginaire, à la créativité. Et aussi en fait une traversée vers les arts à travers l'apprentissage du piano, l'apprentissage d'une certaine cinéphilie, d'un amour de la littérature. Donc il y avait un peu cette idée de la traversée du miroir. Donc voilà l'histoire derrière le titre.
Et votre imaginaire a eu comme vecteur le folklore et les contes russes.
Oui, tout à fait. En fait ma maman est née en Russie. Elle arrivait en France quand elle était enfant. Et elle a une culture russe, donc de par sa propre mère. Et quand j'étais petit, à la maison, il y avait beaucoup d'histoires, de contes de la culture populaire russe. Je pense que je suis profondément français et parisien, mais il y a un peu ce double héritage.
On a tous des origines.
Oui, exactement. On n'est pas l'enfant d'un pays.
Absolument, même si on adopte évidemment ce pays et
sa culture. Exactement, oui, mais ça... enfin l'histoire de l'humanité montre que ça nous enrichit aussi justement ce côté multiculturel. Et j'avais eu la chance de ça quand j'étais petit. En plus, mon père avait étudié à Moscou le piano, donc les deux avaient un intérêt par rapport à la culture russe. Et il y a des contes absolument extraordinaires qui peuvent être un peu effrayants aussi pour les enfants. Il y a souvent des personnages assez étranges, énigmatiques. Oui, il y a un charme particulier. C'est quelque chose. Je me souviens de ma mère qui me chantait des continents russes ou qui me racontait les histoires en russe. Bon, moi-même, je parle pas russe du tout, mais j'ai ça dans l'oreille.
Bien sûr. Et il y avait aussi l'opéra et les ballets.
Oui, c'est des choses qui m'ont marqué quand j'étais très enfant. J'ai souvenir très marquant de trois choses notamment. Il y avait la première fois où je suis allé à l'Opéra Bastille. J'étais tout petit, j'avais alors 6 ans, quelque chose comme ça. Et mon père m'avait emmené voir La Belle au bois dormant.
Tchaïkovski.
Exactement. Il m'avait fait une bonne médiation avant parce qu'on avait, il m'avait raconté l'histoire, fait écouter un peu la musique à la maison parce que c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant quand on est petit d'aller voir un ballet comme ça. Et ça m'avait profondément marqué. Je me souviens que j'avais été aussi un peu effrayé par l'antagoniste, la fée Carabosse. Ce qui est un peu paradoxal, parce que je regardais des choses au cinéma qui étaient un peu plus... où j'étais un peu jeune pour ça, ça ne m'impressionnait pas. Mais là, en live sur scène, ça m'avait particulièrement impressionné. Comme aussi quand j'étais allé voir Casse-Noisette. Je me souviens, ça c'était au Théâtre du Châtelet. Où pareil, les souris géantes m'avaient beaucoup impressionné. Et il y avait autre chose aussi qui s'avère être dans le disque, c'est alors je sais plus si j'étais en CP ou CE1, mais je me souviens qu'il y avait une médiation musicale. On était allé à l'auditorium de la radio pour un concert scolaire où il y avait L'Oiseau de Feu. Donc c'est trois ballets qui se retrouvent dans le disque.
On va revenir tout à l'heure sur L'Oiseau de Feu, mais on va tout de suite vous écouter Rodolphe Mingui dans la marche extraite du Casse-Noisette sur un arrangement du pianiste et chef Mikhaïl Pletnev. Marche extraite de Casse-Noisette par notre invité en balade musicale, le pianiste Rodolphe Mingui. Comment avez-vous choisi le programme de votre disque, Rodolphe ?
Alors, je vous disais que j'avais envie de faire un disque autour des contes et autour des histoires et avec une forte teneur narrative. Et j'ai beaucoup réfléchi à la forme que ça pourrait prendre et je me suis autant l'assumer jusqu'au bout et essayer de faire un conte en musique. Je me souviens que j'avais beaucoup de réflexions au moment où j'élaborais le programme et c'est un moment où j'écoutais les Pink Floyd et je m'étais dit c'est dingue parce qu'en fait quand on met un vinyle des Pink Floyd on se fiche de savoir si on va écouter la troisième piste ou cinquième, on est juste pris dans un univers pendant une heure, il y a un voyage et c'est génial.
C'est vrai, ça me fait remonter mes souvenirs de jeunesse, Rodolphe.
Ah ouais, c'est Pink Floyd. Souvenir à tous, quel que soit notre âge, parce que c'est juste extraordinaire.
Mais South are full of secrets, notamment Monet
et d'autres, oui. et c'est une pensée que j'avais en tête à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit que Ouais, je voulais ce côté vraiment immersif. Et je pense que la structure d'un conte me permettait ça. Donc, je suis parti sur l'idée de vraiment baser le programme sur une structure de conte avec ses 5 étapes, c'est-à-dire la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Donc, j'avais cette base-là, cette structure. Je savais que mon disque devait durer 1 heure. À côté, je savais aussi qu'il y avait certaines pièces que je voulais à tout prix enregistrer. Parce que, par exemple, L'Oiseau de Feu, ça faisait un moment que je le jouais et que c'est une pièce que j'ai beaucoup joué en concert et qui m'est très chère. J'avais envie de me faire des petits kiffs, entre guillemets, avec les Tchaïkovski. Donc déjà, je savais que j'avais envie d'encadrer le disque avec un générique de début, un générique de fin, comme dans un vieux Walt Disney ou un grand film hollywoodien des années 50, avec une ouverture de Tchaïkovski, comme une ouverture de ballet, en fait, et un générique de fin avec Casse-Noisette. Et à l'intérieur, il y a l'histoire. Et donc j'avais des idées de pièces, et en fait je me suis constitué une grande playlist en cherchant, en fouinant un peu par rapport à des choses que je connaissais, d'autres choses que j'ai découvertes, notamment par exemple la pièce de Korngold que je ne connaissais pas du tout, qu'il a écrit quand il avait 12 ans. Et voilà, en fait je rangeais dans ma playlist, j'écoutais un petit peu. Bon, au début je devais avoir 4 heures de musique, donc ça allait pas du tout.
Ça faisait un peu beaucoup pour une heure.
Oui, ça aurait été un CD un peu tétralogique, quoi. Mais oui, je rangeais selon ce que m'inspiraient les pièces dans différentes parties, où je sentais que c'était plus quelque chose qui allait dans la situation initiale, ou alors qui est dans la présentation d'un univers, ou alors qui allait plutôt vers les péripéties ou vers un dénouement. Et voilà, je rangeais un peu ça dans mes playlists, et après je m'écoutais, j'essayais de réduire ça quand même à 2 heures, 1 heure et demie pour avoir une vue globale. Et après j'écoutais ça au casque quand je faisais autre chose, le ménage, la vaisselle. Mais ça me permettait de voir si on pouvait traverser ce voyage et s'il y avait une cohérence à l'intérieur. Comme quand on fait un montage de disque ou même un montage au cinéma, si on change un plan au milieu, la scène va vouloir dire quelque chose de différent. Et je m'étais aperçu comme ça que certaines pièces ne marchaient pas du tout dans le programme, que d'autres marchaient très bien, mais n'étaient pas forcément au bon endroit, et que le fait de mettre une pièce avant une autre pouvait révéler quelque chose dans le parcours. Et voilà, c'était un peu la cuisine de ce programme-là. Vous avez dit, il y a certains compositeurs qui sont peu joués. Il y a aussi une compositrice, Mel Bonis. Je connaissais certaines pièces du cycle des femmes de légende. Les 3 que je joue là dans le disque, j'en connaissais une. Pendant mes recherches, j'ai découvert les 2 autres. Je trouve que c'est quand même de la musique absolument fabuleuse. Il y a la pièce de Paul Dukas aussi, qui est un peu connue, mais qui est pas beaucoup jouée. Oui, parce que c'est une pièce extraordinaire.
Oui.
Et en plus, elle a une portée symbolique, parce qu'elle fait partie d'une œuvre collective qui s'appelle Le Tombeau de Debussy, qui a été écrit au moment de la mort de Claude Debussy. Et voilà, il y a la résurgence du faune à l'intérieur. Enfin, chaque pièce est assez incroyable et j'ai eu pas mal de belles découvertes en fouinant.
On va écouter un second extrait de Casse-Noisette, le très beau et romantique Pas de deux. Rodolphe Minguy. Thank you. après l'univers russe des ballets de Tchaïkovski, qu'est-ce qu'évoque pour vous la célèbre Marche des Nains, l'une des pièces lyriques d'Edvard Grieg, très connue pour les suites orchestrales de Peer Gynt et bien sûr son concerto pour piano?
Alors déjà, j'adore Grieg, j'ai l'impression que c'est un compositeur qui est un peu sous-estimé, alors qu'il a quand même une production incroyable. Vous avez parlé de Peer Gynt, c'est quand même une œuvre magistrale. Et dans les pièces lyriques, il y a vraiment des merveilles. Il y a des petits opus, en plus c'est pas, si on prend juste les petits opus, c'est pas très long à écouter, c'est 15 ou 20 minutes à chaque fois, et souvent constitué de 4 pièces à l'intérieur, et c'est toujours une sorte de voyage presque sensitif, je dirais. Et en l'occurrence, la Marche des Nains, elle intervient assez tôt dans le disque, parce que pour moi on est encore dans la première partie avant que l'histoire s'enclenche, et c'était une manière d'emmener l'auditeur, ou j'allais dire le spectateur comme au cinéma, dans un univers un peu fantastique, mais qui nous paraît familier, parce qu'on, c'est le début de notre histoire, et donc il y a la Marche des Nains, il peut y avoir aussi les fées avec la fée Viviane de Mel Bonis, où les fées sont d'exquises danseuses.
Debussy.
Donc c'est une manière de rentrer dans un univers onirique.
Bien, on va écouter tout de suite la Marche des Nains sous vos doigts, Rodolphe Minguy. Quittons l'univers de Grieg pour revenir en Russie avec le ballet de Stravinsky, L'Oiseau de Feu. Je crois qu'il est une pièce très importante pour vous, Rodolphe Minguy.
Oui, comme je vous le disais, ça faisait partie des souvenirs d'enfance, notamment quand j'étais allé à la maison de la radio pour écouter ça dans ce concert scolaire. Et c'est une, c'est bateau de dire ça, mais j'adore Stravinsky. C'est,
vous n'êtes pas le seul.
Mais je me souviens d'avoir eu ce choc de découvrir sa musique à l'adolescence, d'entendre ses timbres. Et ça, je m'intéressais énormément à l'orchestration et à l'orchestre en général. Et entre L'Oiseau de Feu, Petrouchka, Le Sacre, c'était des univers vraiment foisonnants.
Je comprends.
Et par rapport à L'Oiseau de Feu aussi, il y avait, je suis né à la fin des années 90, donc j'avais le souvenir aussi du Fantasia 2000, où il y a sa musique qui est utilisée, qui fait écho d'ailleurs au Sacre du Printemps dans le premier Fantasia. Oui. Et il y avait aussi, alors ça c'est, ça fait partie de la culture populaire russe, mais je me souviens de dessins animés que me montrait ma mère, des trucs typiquement russes des années 60. et notamment un dont le nom m'échappe actuellement, mais où l'antagoniste était Catchey, qui est l'antagoniste de l'Oiseau de Feu, oui. Mais sous une forme diverse. Je me souviens que dans le dessin animé, il y avait quelque chose qui me marquait beaucoup, où il avait sa mort cachée dans l'œuf, qu'il fallait retrouver, et il transformait les gens en statues de pierre. Enfin, c'était des visions qui m'impressionnaient, parce que le dessin était assez magnifique. Et voilà, il y avait une multitude de choses autour de ça. Et après, bon, c'est une pièce qui est à la base orchestrale, comme les deux Tchaïkovski. Et bon, ça, c'est un peu le truc du pianiste, où on a un répertoire gigantesque.
Et en plus, vous en rajoutez.
Exactement. Et en même temps, on est un peu frustré en disant, ah, c'est quand même bête qu'on soit pas dans un orchestre, parce que j'aime bien jouer ça. Et on a la chance d'avoir eu des merveilleux transcripteurs et de pouvoir faire ça toujours, ce fantasme de toucher l'orchestre.
Une pièce d'ailleurs qui a été créée à Paris en 1910 pour les ballets russes, et ça a tout de suite consacré Stravinsky, qui du jour au lendemain ou presque est devenu quelqu'un de très connu.
Avant le scandale du Sacre du Printemps, toujours dans la même ville.
Oui, absolument. Le massacre du tympan, comme l'ont dit certains à cette époque. On va vous écouter dans la danse infernale, extraite de L'Oiseau de Feu, Rodolphe Minguy. Thank you. Stravinsky, la danse infernale de l'oiseau de feu, par notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, Rodolphe Minguy. Rodolphe, avez-vous des dates de concert ?
Oui, alors là en ce moment je joue pas mal justement le programme du disque. Je serai en concert notamment la semaine prochaine dans le Nord au Conservatoire de Douai où j'ai enregistré le disque, donc je suis très heureux d'y revenir. Et ça sera après 2 jours de masterclass, donc le concert aura lieu le mardi 25 novembre. Ensuite la semaine d'après je serai au Conservatoire de Lille, aussi après 2 jours de masterclass, toujours le même programme, ça sera le 3 décembre. Et après un peu pêle-mêle, il y a aussi des projets en musique de chambre et avec d'autres arts. En décembre, là ça sera au Maroc à Marrakech, le 27 décembre avec Nathan Myrdol.
On jouera notamment très bon violoniste.
Et extraordinaire humain, je suis ravi, on se connaît depuis le lycée et je suis ravi qu'on puisse jouer ça. Et on joue la sonate de Strauss, donc
super.
C'est extraordinaire. Et alors là c'est plus lointain, mais c'est en février, le 17 février 2026, où je serai à la Scala avec le comédien Bertrand de Rofignac, qui est un immense artiste qu'on a pu voir au Châtelet dans Hamlet et Pernit, justement, on en parlait. Et on fera l'histoire du soldat de Stravinsky dans une version en piano solo et comédien solo aussi. Donc ça va être un moment assez incroyable.
Je rajoute qu'il y avait eu ce magnifique concert pour la sortie de votre disque, c'était le 28 octobre, donc il y a quelques jours, dans le cadre de la formidable série des Pianissimes, un point de passage obligé pour la crème des jeunes pianistes, sous la direction artistique de notre ami Olivier Boulet.
Et je le remercie grandement, parce que j'étais vraiment ravi de ce concert dans ce très beau théâtre, chez moi.
On va se quitter avec les premières mesures du final de L'Oiseau de Feu de Stravinsky par notre invité Rodolphe Minguy. Merci beaucoup, Rodolphe Minguy.
Merci à vous, j'étais ravi.
Moi aussi, bonne journée et bon concert.
Merci beaucoup.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Avec les sublimes romantiques sortis chez Indécence Calliope, le pianiste François Daudet, lauréat de concours internationaux, et le violoniste David Louvers, soliste international et membre de l'ensemble Variance, revisite des œuvres emblématiques pour violoncelle et piano. La sonate pour violoncelle opus 65 de Frédéric Chopin, la troisième consolation de Franz Liszt, et un chef-d'œuvre de jeunesse, la sonate pour violoncelle opus 6 de Richard Strauss. Écoutons le premier mouvement de la sonate du compositeur bavarois, écrite à l'âge de 19 ans. Beaucoup d'énergie et de fougue dans cette partition. Après une ouverture majestueuse, la musique chante avec des lignes mélodiques finement expressives. Thank you. Richard Strauss sur IDFM Radio, c'était le premier mouvement de la sonate pour violoncelle avec David Louvers et François Daudet, un très beau disque de musique de chambre sorti sous le label Indécence Calliope.
Balade musicale sur IDFM Radio.
La pianiste Jodiline Galavardin vient de faire paraître pour le label Scala Musique un disque qui propose une odyssée nocturne conduisant l'auditeur du crépuscule à l'aube. Nuit blanche nous invite à voyager en terre russe, lettonne et française. Liapounov, Vasks, Scriabine, Lourier et Déodat Sévrac sont les jalons d'un voyage intérieur placé sous le signe de la poésie. Écoutons le nocturne opus 8 de Serge Liapounov, un compositeur né en 1859 dans l'Empire russe, appartenant à une génération intermédiaire entre celle de Tchaïkovski et de Prokofiev, et qui était lui-même un pianiste virtuose.
Thank you.
C'était un nocturne de Serge Liapounov par l'excellente pianiste Jodiline Galavardin, dont le prénom, très original, lui a été donné par ses parents, qui étaient de grands admirateurs de Jodie Foster, l'actrice inoubliable du film Le silence des agneaux. Jodiline Galavardin interprète maintenant la sonate numéro 2, opus 19, d'Alexandre Scriabine, connue sous le nom de sonate fantaisie, dont le second mouvement pourrait inspirer la tempête. Sonate numéro 2 d'Alexandre Scriabine, sous les doigts de Jodiline Galavardin, extrait d'un très beau disque où chaque œuvre devient le jalon d'un voyage intérieur. La pianiste vient de donner ce programme à la Scala Paris le 18 novembre. On pourra la retrouver le 22 janvier prochain au Collège des Bernardins à Paris pour 4 sonates de Mozart.
Balade musicale sur IDFM Radio.
Formidable défricheur, toujours en quête de nouvelles partitions à poser sur son clavier. Artiste singulier qui marche en dehors des sentiers battus. François Mardi-Rossian défend depuis toujours la musique de son temps. Nous avions d'ailleurs présenté à ce micro ses disques consacrés à Philip Glass et à Keith Jarrett, très bien accueilli par la critique spécialisée. Son nouvel opus, Sources inconnues, est une exploration de l'introspection, du mystère et de l'émotion brute. Voici un nocturne composé d'une manière pour le moins surprenante. Il aurait en effet été dicté depuis l'au-delà par Chopin lui-même à la médium anglaise Rosemary Brown. François Mardy-Rossian interprétait un nocturne de la médium Rosemary Brown qui lui aurait été dicté par Frédéric Chopin depuis l'au-delà. Revenons sur Terre avec Sources inconnues, un morceau qui donne son nom à l'album de François Mardy-Rossian sorti sous le label Ad Vitam. Une pièce composée par Jean-Yves Labatte de Rossi, musicien et cofondateur du label Ad Vitam, qui a eu un parcours de vie incroyable, raconté dans son livre « Rock Me Emin », sorti chez Artaud en 2024 et couronné par le prix de l'homme pressé de l'Automobile Club de France. Thank you. Sources inconnues, de Jean-Yves Labatte de Rossi par François Mardi-Rossian, extrait de son album au titre éponyme, sorti sous le label Ad Vitam. François Mardi-Rossian est aussi compositeur. Voici un petit triptyque, trois souvenances, qui se déroule comme un rêve éveillé, chaque mouvement étant une exploration de la mémoire intime du compositeur. Une série de réminiscences surgissent et disparaissent. Vous reconnaîtrez sans doute quelques mesures du Sacre du printemps de Stravinsky. Trois souvenances de et par le pianiste François Mardi-Rossian, extrait de son disque très original et fascinant, Sources inconnues, paru sous le label Ad Vitam, qui vient de refermer notre balade musicale. Je vous donne rendez-vous demain dimanche à 11h. Merci à Francky à la technique. Et d'ici là, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio. Le pianiste Jean-Marc Diatkine donnera un récital le samedi 29 novembre à 20h30 à la salle Cortot à Paris, au programme Brahms, Rhapsodie numéro 1, opus 79, Schubert, les Klavierstücke numéro 1, Deutsch 946, Beethoven, la 15e sonate opus 28, Pastoral, Schubert, 6 moments musicaux, Deutsch 780, et la fameuse sonate Appassionata numéro 23, opus 57 de Beethoven. Par ailleurs, Jean-Marc Diatkine vient de publier son dernier disque avec un programme consacré essentiellement à Franz Schubert, moments musicaux, impromptus et mélodies hongroises.